Bonsoir, Sylvain Courtou, qui nous fait le plaisir d'être avec nous au téléphone.
Bonsoir.
Je vais commencer par vous présenter un petit peu. Donc, vous êtes né en 1976 à Bordeaux. Vous vivez, vous travaillez à Limoges. Vous avez participé à des revues, la revue Plastique avec Emmanuel Rabut.
La revue Poésie Express qu'on a montée avec Charles Penquin et Jérôme Bertin.
Et la revue également Évidence avec Mehdi Belhaj-Kassem.
Voilà, j'ai participé surtout au second numéro.
Au second numéro. Oui. Vous avez publié récemment Action Writing, entre parenthèses, manuel au dernier télégramme.
Tout à fait, ouais, en février 2006.
Et un peu moins récent, le texte Nil Inc. 7 aux éditions ICO.
En juin 2005, voilà.
Vous publiez également beaucoup...
mon premier livre, mon premier livre a été publié chez Ancrage & Co en 99, voilà.
D'accord. Vous publiez également pas mal en revue, dans le dernier numéro de la revue Java, il y a un texte de vous, et on trouve aussi pas mal de textes de vous sur Internet.
Oui, j'aime bien les revues, j'aime bien que les textes puissent être lisibles par le plus grand nombre, c'est-à-dire j'aime bien donner mes textes à des revues. Le site de Docs, il y a plusieurs textes sur le site de Docs. Docs, c'est une revue dans laquelle j'ai publié, Action Politique aussi, IF aussi, etc. C'est vrai que ce travail dans les revues m'intéresse beaucoup parce que ça permet d'expérimenter des choses qu'on ne pourrait pas peut-être expérimenter ailleurs. Donc c'est bien pour ça.
Alors, on va commencer un peu par le vif du sujet, par ces deux textes d'Action Writing et Nil Inc. 7. Ma première impression de lecteur, ça a été d'abord, on va commencer par mes impressions, c'était la crudité des mots, notamment des termes employés dans le registre de l'obscène. Est-ce que c'est pour donner du rythme à la langue ?
Oui, il y a certainement de cela, mais je dois dire que c'est pas la cruauté pour la cruauté. Enfin, c'est un travail nihil, c'est un travail sur l'abjection, et c'est également un travail sur le nihilisme abject en fait. L'abjection du nihilisme. Effectivement, il me semblait intéressant. Et puis, c'est quand même, j'aime bien prendre à partie le lecteur, souvent dans Nihil, un peu moins dans Action Writing, mais dans Nihil, le livre qui sortira en octobre prochain. Là, il y a beaucoup de prise à partie du lecteur. Et j'aime bien envoyer des mots cinglants un petit peu. Oui, ça me plaît bien. Moi, enfin, la poésie, la littérature plutôt au premier degré, plutôt hardcore, m'intéresse plutôt assez.
Alors, Nil, c'est faire du nihilisme la forme même du livre. Et ce texte, ces textes, puisqu'on en trouve plein d'extraits, c'est un dialogue, c'est un flux de parole. Et justement, oui, le lecteur est dedans, du coup.
Ouais, c'est un flux de parole parce que c'est encadré par les paroles sont toutes encadrées par des tirets longs. Que j'ai récupéré chez William Burroughs, en fait, et qui me permet de créer un véritable dialogue, quoi, en indirect libre, hein, comme pouvait le faire Flaubert. Et c'est mon envie de dire, en fait, que le texte, c'est que la parole est toujours là, quoi, de toute façon, est toujours là. Et ces paroles sont des cuts, en fait, sont des samples qui viennent d'autres textes et que je remixe ou pas et que j'implante dans le livre Nihil pour en faire une chose un petit peu, une chose cohérente, en tout cas. Voilà, je pars du non-cohérent absolu pour faire de la cohérence, quoi. La cohérence, c'est Nihil, parler du nihilisme et parler du monde dans lequel on vit.
Alors cette cohérence, vous l'obtenez par cette forme de dialogue quasiment.
Forme de dialogue et puis le bon choix des phrases, des mots, des séquences rythmiques ou pas, des choses que j'ai pu sampler, plagier, d'autres pourraient dire ça. Mais moi, c'est ma technique de travail, c'est-à-dire le plagiat pour moi est une œuvre d'art, quoi, au sens où l'autre Amon l'a dit. Et je trouve ça intéressant de faire ça. Et cohérence, la cohérence est donnée par le choix ça met longtemps. J'ai mis 4 ans à écrire Nihil, et il a fallu du temps pour récupérer dans ma bibliothèque, dans les bibliothèques que j'aime, dans les livres que j'aime, dans les auteurs que j'aime, des phrases qui me semblaient avoir du sens pour toucher une cohérence.
Alors, C'est un travail donc de sample, un travail de citation, un travail de récupération de citation. Vous récupérez donc le travail des autres. C'est un travail donc de lecture, un gros travail de lecture.
Oui.
Alors, a-t-on affaire dans vos textes au travail d'un lecteur ?
Oui, tout à fait. C'est un travail d'un lecteur avide de lecture et qui sait très bien, enfin, je sais très bien que c'est comme ça que... Alors, j'ai commencé petitement au début, hein, avec quelques salles dans un texte comme Tolérance Zéro, qui est un très vieux texte, publié dans Évidence 2, en fait, qui est un très vieux texte, qui est un texte qui date de 99, en fait. Et avec ce texte-là, j'ai commencé à juste incorporer des petites phrases, des petits bouts de samples pris chez Denis Roche ou Philippe Solers, par exemple. Mais j'ai continué, et puis voilà, puis j'ai perdu votre question, en fait.
C'est pas bien grave, il y en a une autre qui arrive.
D'accord.
Parce qu'on va essayer de compléter un peu tout ça. On a parlé donc de samples, de cut-up, mais il faut parler... de samples dans le sens de mise en boucle aussi.
Ouais.
C'est souvent qu'il y a dans vos textes,
tout
tu peux mettre ça en boucle.
Bah pour moi, c'est un rapport directement à la musique. Je compose mes textes comme si je faisais de la musique. Alors une musique pas classique ou contemporaine, quoique la musique concrète de Pierre-Henri dans ce jeu avec les harmonies, les cellules de montage me plairait assez bien. Non, c'est plutôt une sorte de musique bruitiste infestée de samples, infestée de virus sonores et soniques. Et effectivement, c'est ça qui m'intéresse, quoi. J'aimerais... Alors, Olivier Quintin dit que lui, il fait un travail d'après Otomo Yoshihide. Très bien, le sampling virus. Et moi, je dirais plutôt que je fais un travail à partir de Masami Akita, qui est en fait le mec de Merzbow, voilà. Et la musique... Donc, je fais mes textes... Je compose mes textes comme un musicien pourrait le faire, c'est-à-dire en juxtaposant, en créant des rythmes, en voyant si ça marche ou pas, parce que là, ce qui fait qu'un texte est bon, c'est la pertinence du truc, quoi, voilà. Et ce sont mes armes. Mes armes sont le cut-up et la mise en boucle, parce qu'effectivement, la mise en boucle, un disque, les boucles de samples sont très intéressantes. Dans les disques, les boucles, bon, moi j'aime beaucoup les boucles, effectivement, il fallait des boucles. Là, en l'occurrence, les boucles sont des chansons d'artistes qui m'intéressent même pour le propos, puisque dans Neil Inkset, le petit livre de chez Ico, c'est David Bowie, deux titres extraits de l'album Diamond Dogs, qui est un album en fait en hommage à William Burroughs et au livre 1984 d'Orwell. Voilà, donc tout est un peu lié comme ça au nihilisme, aux théories du complot, etc. J'essaie de faire un texte assez étrange, bien sûr, hein, où la narration est pas un texte narratif peut-être, mais bon, qui quand même a perdu sa notion de narrativité, je crois. Enfin, je sais pas.
Alors, il y a autre chose en plus. Il y a l'utilisation récurrente de mots fabriqués, refabriqués qui donnent un double sens. Je prends un exemple, par exemple, le mot grâce, il suffit de rajouter un i et ça donne le mot graisse. Il y a beaucoup de mots comme ça où il suffit de rajouter une lettre entre parenthèses et ça lui donne un double sens.
Ça s'appelle, c'est un truc qu'on avait commencé à travailler avec Jérôme Bertin et un peu plus tard Philippe Boinard, s'y est mis aussi, mais bon, c'est surtout Jérôme et moi qui avons créé ça, c'est le concept d'hyperlittéralité. Et l'hyperlittéralité, en fait, c'est ça, c'est de mots, de phrases, en agrégeant comme ça des petits riens, en fait, à faire passer le texte à un sens complètement différent, à un autre sens plus délirant, quoi, plus... du coup, c'est surtout Jérôme Bertin qui a fait ça, qui est mon meilleur ami, avec qui on se connaît depuis plus de 10 ans et avec qui je travaille, avec qui réellement je travaille. Donc c'est plutôt lui qui a mis ça. Moi, je me suis un peu lancé dans ce truc aussi avec lui, et on a créé quelques textes comme ça, hyper littéralistes, qui ont été publiés dans un numéro Java, entre autres. Jérôme a publié ces textes-là dans les revues Evidence également. Moi, c'était mon texte hyper littéraliste dans la revue Plastique, Insane, qui est un texte comme ça, où j'essaie de vraiment déconstruire la syntaxe et le langage, parce que le but, c'était de déconstruire. Suite à notre petit manifeste qu'on avait écrit tous les deux, qu'on avait fait publier par Action Poétique, l'axiomatique transgressive, on avait eu envie de déconstruire complètement le langage, parce qu'au fond, on voulait le révolutionner. Bon, on avait 25 ans à cette époque-là, on était jeunes et naïfs, et voilà, c'était notre côté un peu punk, et le punk est toujours resté, quoi. On est toujours un peu punk, mais maintenant on est moins naïf quand même.
Alors, j'aimerais qu'on continue sur ce concept d'hyper-réalité, parce que ça, est-ce que c'est pas le travail de remix qui est abordé dans vos textes? Parce que donc, on a parlé de cut-up, on a parlé de samples, de citations, mais il y a un gros travail de remix, parce
Oui,
que
alors le.
les citations n'ont pas l'air d'être livrées tout le temps de manière brutale, ces citations.
Disons
J'ai
que.
l'impression qu'elles sont quand
Ouais.
même retravaillées. Donc ce concept d'hyper-réalité, est-ce que c'est pas le début d'un travail de remix?
Hyper-littéralité. Oui, mais le travail de remix, c'est tout. Disons que Nihilik 7 est déjà un titre. C'est déjà un remix du titre qui sera publié dans le livre par Allanté en octobre. C'est déjà un remix. Tous mes textes, à peu près, sont des remixes d'autres textes. À différentes périodes. Si on prend par exemple un texte d'action writing, il y a plusieurs textes d'action writing qui sont parus sur le net ou sur revues comme Docs par exemple. La version finale que vous avez pu lire dans le livre, hein, est très très différente de ces versions-là. J'aime bien moi m'amuser pour des revues ou pour mon propre travail de faire des À partir d'une matrice qui est le texte, faire des versions différentes, alors en rajoutant du texte, en enlevant, en mettant autre chose, en formalisant le texte autrement, en jouant avec la forme, le fond, etc. De créer d'autres textes avec des. Ça, c'est toujours le rapport à la musique qui est présent, là. C'est toujours le rapport à la musique, c'est-à-dire mes textes sont comme des singles, hein, qui ont des remixes, des extended mix, des extended chaos mix, etc., etc., quoi.
Alors justement, on va parler d'un peu de ce sentiment de musique, parce que vous écrivez poésie égale vitesse plus rythme. Il faut parler, je pense, de ce rythme. Les textes, vos textes, quand on les lit, ils donnent une impression d'emballement à dire. On a l'impression que c'est des textes qui courent. Ce rythme-là, est-ce que vous l'obtenez par la répétition de courtes citations?
Oui, par l'itération, oui. Alors dans Action Writing, ça marche pas beaucoup, mais dans Neil, le livre que vous lirez là en octobre, là, il y a beaucoup plus d'itération et je vous jure que ça prend une dimension autre. Hein. C'est complètement, c'est vraiment assez dingue en fait. Ça, c'est un livre complètement schizophrène, Neil, et cette mise en boucle de petites séquences, d'énoncés virus en fait, hein, d'énoncés virales, fait que ça donne c'est assez particulier l'effet que ça donne. Mais moi, j'aime assez ça. On est une sorte de tourbillon, quoi, de vortex un peu bizarre dans la littérature. Et ça, j'aime beaucoup ça. Et je dois dire que bah ça vient un petit peu de. Enfin, ça vient pas mal de ce qu'a pu faire Christophe Fiat. Ça, c'est bien Fiat qui m'a envie de continuer dans l'itération la plus débridée, la plus punk, quoi.
Alors, cette langue qui se fait rythme, qui se fait répétition, ça c'est le texte, c'est la langue que vous employez. Vous employez une langue, tout à l'heure j'ai dit qu'elle était, que les mots étaient crus des fois, c'était des fois dans le registre de l'obscène. Moi j'ai l'impression que c'est une langue que vous utilisez qui excite, et que la vulgarité des fois de vos citations conçues comme telles, c'est pour fabriquer une langue non pas qui choque, mais une langue qui excite.
Ouais. Alors ça, je sais pas du tout. Il y a bien sûr de mon côté un peu de provocation à écrire de tels textes parce que j'aime bien ce qui remue. Moi, ce qui m'a donné envie d'écrire, il y a deux grands textes qui ont été importants pour moi. Il y a les premiers poèmes de Bernard Noël, extraits du corps, etc. Plus le règne de révolution. Un truc comme de Abdelatif Lahabi. Je sais plus si c'est le
D'accord.
règne de révolution ou le règne. Je sais pas. Vous savez, vous peut-être que
Non, ça me dit rien
c'est
du
un livre
tout.
d'Abdelatif Lahabi qui est
D'accord.
sorti en 68,
D'accord.
qui a été publié, des essais ont été publiés dans tel quel à cette époque-là. Et c'est un livre absolument génial. Moi, un de mes livres préférés de poésie, c'est Abdelatif Lahabi, ses premiers textes, qui m'a donné envie d'écrire des textes plus expressionnistes, en tout cas plus directement ancrés sur la réalité sociale et visible du monde, quoi. Et qui m'a donné envie de déconstruire ce monde par la langue que j'ai créée, c'est-à-dire une langue samplée, cut-upée, virusée de partout, une langue comme ça, qui pour moi n'est pas obscène, elle n'est pas. Alors je ne sais pas si elle excite, peut-être que d'une certaine manière, oui. J'imagine bien dans Action Writing peut-être. Dans Neil, c'est encore différent. Je pense qu'elle plutôt elle elle c'est une langue qui tue peut-être les mots, je sais pas, il faut, faudrait que vous lisiez ce livre, hein, bien sûr, mais je sais pas si on le voit dans le petit livre 7. Non, c'est une question, je sais pas comment vous répondre, à part ça que Adèle Latif Lahabi et des gens comme Alain Jouffroy aussi, ou Bernard Noël, m'ont amené, hein, à cette, à une écriture au premier degré, c'est-à-dire qui parle directement au lecteur.
Alors on a abordé d'abord la manière d'écrire vos textes, là on aborde la langue, on a parlé de rythme, on a parlé d'excitation, il faut aussi aborder un troisième point à mon avis majeur, c'est politique, la politique. Est-ce que c'est une langue politique que vous écrivez ?
La langue est toujours politique, elle est toujours politique, quoi qu'on fasse elle est toujours politique, elle est toujours imprégnée de ce qu'il y a eu dans l'histoire politique et sociale. La langue a une histoire, et donc elle a une histoire politique et sociale. Moi, j'ai envie de... Moi, voilà, déconstruire la langue, déstructurer le langage, comme je le fais en hybridant et en intégrant des samples, des citations, etc., et en faisant tout ça un ensemble cohérent, c'est de dire que on ne sort pas du texte. D'abord, le texte est jamais clos, et que tout ça, bien sûr, est très c'est très politique. Si je veux dire, c'est moi, c'est le mineur qui m'intéresse au lieu du majeur. C'est pas la langue majeure, c'est pas la langue maternelle qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de traquer la langue maternelle, quoi. Créer un virus. J'aimerais bien que mes textes soient pris pour des morceaux de musique, oui, mais aussi pour des virus qui viendraient un peu comme ça déchaîner toutes les langues. Materne fiel, comme je dis dans Action Writing, des langues dominantes, les langues du pouvoir, parce que moi, pour le pouvoir, j'ai envie de dire, tiens, prends ça dans ton cul, au pouvoir, tu vois. Et voilà, donc j'ai envie. La langue, ouais, pour moi, c'est très politique. Alors après, la politique, c'est bon. Je suis engagé politiquement, réellement.
C'est bien parce que c'est en même temps les réponses à ma deuxième question qui était dans quel état d'esprit politique s'écrivent vos textes.
Dans quel état d'esprit politique ? Ben, de vraiment de révolter, quoi. Je crois que s'il y a un truc qui caractérise bien mes textes, c'est bien la notion de révolte et de révolution, mais encore que ça, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Je pourrais l'expliquer, bien sûr, mais c'est à prendre avec des pincettes. Mais l'idée, c'est vraiment le Je suis un révolté, quoi. Je suis un rebelle, quoi. Tu voyais, donc c'est ça qui guide les textes. J'ai envie de, en fait, manuel. Pourquoi manuel pour Action Writing? Parce que en fait, le manuel est un petit livre. Hein. Le manuel d'Épictète, par exemple, est un petit livre. C'est un petit couteau au départ, mais le manuel d'Épictète, c'est un petit livre qu'on peut sortir. Hop, on le sort et on lit 2-3 phrases histoire de faire chuter l'adversaire. Ben moi, c'est pareil, c'est un manuel contre l'abcès néolibéral, quoi. Contre l'abcès néolibéral et tous les problèmes que ça impose d'éthique et d'esthétique, bien sûr, quoi.
Alors, c'est super, parce que c'était ma prochaine question sur ce manuel, puisque Action Writing est un manuel. Un manuel de quoi ? Ben oui, c'est un manuel d'attaque politique à travers la poétique, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment un manuel au sens strict, comme celui d'Épictète, évidemment. Mais c'est un manuel qui essaie de donner quelques clés, qui essaie... Très modestement, parce que c'est de la poésie avant tout, et je dois dire c'est de la poésie avant tout, c'est pas du tout un essai, mais qui essaie de donner quelques clés de compréhension, et de, pas de compréhension, mais d'envie de dégueuler ce monde, quoi. En fait, je veux dire, c'est Alain Frontier qui a fait une lecture, là, on peut la lire sur Libre et Critique, du texte Action Writing, qui est plutôt intéressante. Il disait en fait, je mets à néant toutes les pensées en fait dont je sample les pensées que je recopie, que je cite, comme celles de Deleuze, Baudrillard, Foucault, etc. Les gens qui m'ont beaucoup influencé, surtout pour Deleuze. C'est ça, sa pensée de critique de dire ça, mais moi je crois que c'est un livre à lire au premier degré, quoi. Alors, c'est un livre ailleurs premier degré, et je crois que voilà, ce texte a une certaine puissance, je crois, et cette puissance-là, bah, elle est, j'espère, pertinente, quoi. Ça, j'en sais rien, en fait, hein.
Alors, je vais lire trois petits extraits, et j'aurai ma question après.
D'accord.
Premier extrait. Les révolutions ne s'annoncent jamais, jamais ne s'amassent dans la langue ni dans les formes de pensée de ceux contre qui elles se font. Deuxième extrait. Le champ politique a contaminé tout énoncé. C'est la littérature qui se trouve chargée positivement de ce rôle et de cette fonction d'énonciation collective révolutionnaire. La machine littéraire prend ainsi le relais d'une machine révolutionnaire à venir. Troisième extrait. Réactiver la négation du code à partir désormais d'une écriture tueuse, explicitement politique. Ma question alors, c'est sur la fonction de la littérature. Quelle fonction de la littérature dans vos textes?
Mais il y aurait... alors la fonction...
J'ai envie C'est-à-dire de dire, le lien entre littérature et politique.
Ouais, disons que... Mehdi Belhaj-Kassem écrit dans les entretiens chez De Noël avec Eric... Nassif,
voilà, tout à fait.
Écrit que lui, son but ultime, c'est de détruire la démocratie médiatico-parlementaire. Bon, moi, je souscris à ce genre de truc. Et s'il y avait vraiment un but de la littérature, c'est de changer le monde. Hein. Je suis pas idiot quand même. Quand je dis ça, je me dis mais merde, putain, c'est quand même. Mais pas un livre de poésie, surtout. Un livre de poésie, ça se vend peu. Alors, je pense qu'action writing, c'est thèse, antithèse tout le temps, je pense, quoi. On peut le dire comme ça. C'est ça, je sais pas, je pense que c'est un texte un peu étrange par ce côté-là. Mais c'est un texte très punk, en tout cas. Je veux dire, j'ai écrit beaucoup. La logorée verbale fut monstrueuse pour ce livre, mais c'est vrai que en dernier état de cause, s'il y avait un truc à dire, c'est que c'est un livre punk, c'est-à-dire un livre finalement apprendre au premier degré, certes, apprendre très simplement qui ne dit que ce qu'il dit. Il ne dit pas vraiment autre chose. Dans ce sens-là, il est assez objectiviste, ce livre, et en même temps il essaie de dire deux trois trucs, mais je pense que ces deux trois choses sont peut-être voilés chez ça, j'en sais rien. J'ai pas la réponse, parce que je pense que c'est une des apories énormes du livre, hein, peut-être un peu le fait que ce livre demande peut-être aussi... Enfin là, je sais pas quoi vous dire, c'est une question difficile, parce que... quel est le but de mon écriture, ça je peux pas vous le dire vraiment.
Est-ce que par exemple, ça pourrait être une langue...
J'ai envie de foutre un putain de bordel, et j'ai envie de faire chier, quoi. Mais bon, je sais bien que c'est pas les dominants qui me liront, c'est pas les politiciens qui me liront, tout ça, je sais bien ça. Donc mon rayon d'action est très très léger, mais voilà, c'est un livre punk, et il a l'esthétique et l'éthique punk, voilà.
Est-ce que la langue, telle que vous la travaillez par les systèmes dont on a et les méthodes dont on a parlé, est-ce que c'est une langue pour ne plus être asservie?
Oui.
Est-ce que c'est désasservir la langue?
Tout à fait, une langue pour plus être asservie, tout à fait, une langue, une nouvelle langue, quoi, qui nous permettrait de bien sûr, de ne plus être asservie, de ne plus pouvoir ronronner la langue commune, l'idiome commun. Ça, c'est si bien décrit, hein, le processus dans les livres de Christian Prigent, qui m'ont beaucoup... Prigent m'a énormément influencé sur ce point-là, quoi. Sur tous ces points-là, en tout cas, qui touchent la langue, le fait d'écrire et comment écrire, etc., quoi.
Eh bien, je ne peux que vous remercier, Sylvain Courtois, d'avoir participé à l'émission de littérature.